La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30. Eh bien bonjour, vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La tête dans l'étagère. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons avoir un entretien avec Jean-Marie Pillon et Luc Cigalo-Santos, qui sont deux des co-auteurs de l'ouvrage collectif Chômeurs, vos papiers, qui est paru aux éditions Raison d'agir. Alors, Jean-Marie Pillon et Luc Cigalo-Santos, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, on va dire que vous avez écrit avec Claire Vivès, Vincent Dubois et Adrien Clouet, qui sont vos co-auteurs et co-autrices, ce livre assez intéressant et qui est d'actualité, vu qu'il se passe quand même des choses en ce moment avec des lois qui ont été votées et tout et tout. Et en gros, hein, ce que votre livre est intéressant, c'est qu'il décrypte un peu l'histoire et le fonctionnement de ce qu'on appelle la CRE, le contrôle de la recherche d'emploi. Parce qu'il y a des agents du contrôle de la recherche d'emploi qui travaillent là-dedans avec des témoignages de l'intérieur des agents. Et votre but, vous l'avez fait un peu pour réagir ou lutter contre les fausses évidences de la croisade gouvernementale pour le plein emploi. Parce qu'il y a justement une loi plein emploi qui est votée récemment. Et en gros, hein, ce que vous dites un peu dans la quatrième de couverture, c'est plus les chômeurs et les chômeuses sont nombreux, plus elles sont suspectées d'être la cause du chômage. Tel pourrait être le paradoxe des politiques de l'emploi en France comme ailleurs. Et vous replacez un peu toutes les évolutions du contrôle du chômage dans l'histoire longue, et vous montrez comment l'intensification de ce contrôle dans la période récente, elle a été à la fois pensée, mise en œuvre et justifiée au nom du principe de redynamisation des chômeurs, au point d'être désormais présenté comme une nouvelle forme d'accompagnement de ces chômeurs. Et ben, cette euphémisation dans le discours, elle tranche avec la virulence des discours politiques sur le sujet, tout comme elle masque les effets délétères de ce traitement coercitif. Car si le contrôle vise à adapter les comportements des chômeurs à des exigences institutionnelles, il s'agit aussi de satisfaire les exigences des entreprises. Parce que mettre la pression sur les chômeurs, c'est aussi perpétuer l'ascendant des employeurs dans le rapport de force qui les oppose aux salariés en matière de conditions de travail et de salaire. Aujourd'hui comme hier, la cause des chômeurs est bien celle des travailleurs. Et ben, après ce petit résumé succinct, je pense que j'ai bien résumé l'ouvrage.
Tout à fait. Un grand merci pour ce résumé.
Voilà. On va un peu s'occuper des questions qui nous intéressent. C'est quelles sont les principales raisons, donc cette augmentation insistante et systématique du contrôle des chômeurs, mais aussi des allocataires du RSA depuis les années 80, mais surtout depuis les années 2000, ce que vous expliquez dans votre ouvrage, et aussi... qui sont celles et ceux qui sont à une fréquence diverse selon telle ou telle situation, les plus contrôlés par les agents du long du service public de l'emploi. Donc voilà, c'est un peu les grandes questions larges qui sont un peu posées auxquelles vous répondez dans cet ouvrage. Donc si vous pourrez un peu en parler pour nos auditeurs, nos auditrices.
Alors déjà oui, un grand merci pour le résumé de l'ouvrage. En fait, ce qu'on essaie de montrer dans le bouquin, c'est que il faut pas voir le contrôle comme quelque chose de particulièrement récent. En fait, quand on regarde dans l'histoire, dans le rétroviseur, le contrôle apparaît aussi vieux que les revenus de remplacement, que le fait de secourir les chômeurs. Et ça date à peu près du début du siècle, du siècle dernier, hein, au début du 20e. Mais ce qui a changé ces dernières décennies, c'est qu'est-ce que l'on contrôle ? C'est-à-dire qu'au début du siècle dernier, on contrôlait la probité des chômeurs, c'est-à-dire il fallait pas être révolutionnaire, ça c'est pas bien, et puis il fallait pas être alcoolique. Ensuite, pendant la période de plein emploi masculin, après la Seconde Guerre mondiale, on contrôlait autre chose, on contrôlait surtout la disponibilité des chômeurs. Et ça, c'était fait pour éviter le travail au noir, bien sûr. Et ce qui va changer depuis les années 80 et encore plus, qui va s'intensifier sur la période encore plus récente, c'est que, en fait, le contrôle, il est de plus en plus pernicieux, en quelque sorte, puisque il consiste à contrôler les dispositions d'esprit des allocataires. Quelle est leur démarche mentale, en quelque sorte? Parce que ce que l'on veut savoir, c'est est-ce qu'ils sont sincèrement en recherche d'emploi? Et ça modifie complètement la relation de contrôle, parce que c'est un contrôle qui devient comportemental et mental. Et donc, du coup, pour être légitime à bénéficier de la solidarité, que ce soit sous la forme d'une assurance, parce qu'on bénéficie d'une indemnité suite à avoir cotisé, ou qu'on bénéficie de l'assistance, c'est-à-dire qu'on bénéficie d'un revenu minimum qui est financé par le conseil départemental, eh bien, si on veut bénéficier de cette solidarité, il ne faut pas simplement avoir perdu un emploi et avoir cotisé. Il faut aussi accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi. Et si jamais il y a un contrôle, il faut être en mesure de prouver le caractère réel et sérieux de ces démarches de recherche. Donc, il n'y a pas forcément une augmentation en tant que telle du contrôle. En revanche, le contrôle est de plus en plus intrusif et il va chercher à s'assurer des dispositions d'esprit des allocataires. Et alors ensuite, maintenant, qui c'est qui est-ce qui est contrôlé?
Alors oui, pour prendre la suite, du coup, alors déjà, j'en profite aussi pour vous remercier pour le résumé de l'ouvrage très fidèle et puis pour votre invitation à présenter un petit peu ce livre. Alors pour répondre à la question, donc effectivement, sur qui sont celles et ceux qui contrôlent, alors en fait, bon, globalement, ce qu'il faut dire, c'est que depuis la naissance de Pôle emploi, les choses ont quand même, donc naissance de Pôle emploi en 2008, hein, par fusion de l'ex-ANPE, hein, qui était chargé du placement des chômeurs et puis du réseau des ACDIC, qui était chargé d'indemniser ces mêmes demandeurs d'emploi. Donc depuis la naissance de Pôle emploi en 2008, les choses ont pas mal évolué. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au début, dans les premières années, le contrôle était quelque chose de relativement léger, si je puis dire, notamment parce que Pôle emploi n'avait pas forcément les moyens de contrôler. Bon, il y a eu une crise économique et financière en 2008 qui a fait qu'on s'est surtout concentré sur eh bien, l'accueil des demandeurs d'emploi et le suivi des demandeurs d'emploi. Donc le contrôle est passé d'abord, dans un premier temps, un peu à l'arrière-plan des choses. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que globalement, à partir de 2013, il y a une expérimentation qui est mise en place, donc poussée notamment par le gouvernement socialiste de l'époque, et repris ensuite par François Rebsamen, qui ne comprend pas, hein, il l'explique d'ailleurs à la télévision à l'époque, en 2014-2015, il ne comprend pas que Pôle emploi se soustrait donc au contrôle des demandeurs d'emploi, alors même que cette mission lui a été assignée, hein, depuis 2008, hein, récupérée, hein, des directions départementales de l'emploi qui assuraient auparavant cette mission. Donc on ne comprend pas en fait pourquoi les agents ne font pas la mission qui leur a été confiée. Et par conséquent, c'est de là que vont naître ces plateformes de contrôle, d'abord sous la forme expérimentale et puis ensuite sous la forme d'agents spécialisés. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plusieurs modalités de contrôle au sein d'institutions. Alors, il y a trois grands types de contrôle, si je puis dire. Le contrôle se passe d'abord par requête aléatoire, ce qui veut dire, en fait, dans le jargon Pôle emploi, qu'on contrôle de façon indifférenciée les chômeurs, alors qu'ils soient en catégorie A, B, C, qu'ils soient indemnisés ou pas, qu'ils soient en Île-de-France ou en région PACA, qu'ils soient ruraux, urbains, etc., etc. Donc ça, c'est une première façon de contrôler de façon aléatoire. Il y a une deuxième grande modalité de contrôle, c'est des requêtes ciblées, comme on dit dans le vocabulaire interne. Alors, il y en a plusieurs, hein, je vous épargne les 9 requêtes, hein, mais celle qui est la plus utilisée aujourd'hui, parce que c'est notamment là-dessus que l'exécutif gouvernemental, notamment le président de la République, a mis l'accent en 2021, hein, au sortir de la crise Covid, c'est les requêtes sur les métiers en tension, c'est-à-dire les métiers où en fait il n'y a pas assez de main-d'œuvre qui vient travailler, donc notamment les métiers du BTP, les métiers du soin, de l'hôtellerie-restauration, où on suppose qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont non pourvus. Et c'est précisément dans ces métiers-là que les chômeurs sont les plus suspectés, eh bien, un peu de se complaire dans leur situation de chômage. Et ce qu'il faut dire quand même sur ce point, c'est qu'aujourd'hui, ces requêtes sur les métiers en tension en matière de contrôle, ça représente à peu près un contrôle sur deux, et parfois plus dans certaines régions, puisqu'il y a des variations régionales. Donc c'est quand même quelque chose qui a pris énormément, enfin qui est devenu très central. Et puis, dernier grand type de contrôle, c'est des contrôles par signalement, hein, c'est le mot qui est utilisé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des conseillers des agences locales, des conseillers référents des agences locales, qui vont signaler aux équipes de contrôle eh bien, que l'un des chômeurs qui suivent eh bien, ne respecte pas, ou en tout cas, on estime qu'il ne respecte pas ses obligations de recherche d'emploi. Et donc, il faudrait pousser plus loin l'étude de son dossier et, disons, le remettre un peu sur le droit chemin, si je puis dire. Et précisément, c'est cette part de contrôle par signalement que la Direction générale de Pôle emploi essaye d'augmenter. Alors pour l'instant, on est en dessous encore de 20% hein, de contrôle par signalement, mais la Direction générale pousse pour, comme elle le dit, hein, dans un certain nombre de documents, instiller ce qu'ils appellent une culture du contrôle au sein de Pôle emploi, qui effectivement était jusque-là pas très présente, puisque notamment au sein de l'ex-ANPE, le contrôle était quand même plutôt vu comme quelque chose qui relevait, comme le dit un sociologue, du sale boulot, hein, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne voulait pas vraiment faire parce que c'était assimilé en fait à une forme de flicage, et qu'en plus ça rajoutait du travail. Donc voilà, même si cette part de contrôle par dénonciation, elle est encore en dessous de 20%, en tout cas on voit que l'intention de la direction générale, c'est de la faire croître progressivement.
Et si je peux ajouter quelque chose, il faut se figurer un peu ce que ça signifie, ces chiffres et ces objectifs. C'est-à-dire que s'il faut mettre l'accent sur les chômeurs qui exerçaient auparavant des métiers en tension, ça signifie que les personnes qui souhaitent se réorienter, qui souhaitent changer de métier, en fait, elles vont se retrouver pressurisées pour retourner dans leur métier d'origine. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucune réflexion sur les causes des tensions sur ces métiers en particulier. Notamment, il peut y avoir des causes physiques. Ce sont des métiers où on se fatigue très jeune. Il peut y avoir des causes morales, parce que ce sont des métiers où la pression est très importante. On pense aux infirmières, on pense aux différents soignants. Ou ça peut être tout simplement des causes familiales. Il est très difficile de pouvoir fonder une famille quand on travaille dans l'hôtellerie ou la restauration. Eh bien, toutes ces causes de la tension sur ces métiers-là, elles peuvent pousser à arrêter d'être garçon de café, arrêter d'être soignant, arrêter d'être cariste. Et c'est une dimension, qui est totalement absente des débats sur les difficultés de recrutement, c'est-à-dire le fait qu'il y a certains secteurs qui essorent leur main-d'œuvre et d'où les personnes essayent de partir.
Oui, à ce propos, il y avait un exemple parlant du discours gouvernemental en la matière, hein, sur le fameux, qu'on peut appeler un mythe des emplois non pourvus. C'était le discours du 9 novembre 2001 d'Emmanuel Macron en annonçant l'augmentation du nombre de contrôles réalisés par Pôle emploi. Il dit que Pôle emploi va passer en revue des centaines de milliers d'offres qui ne trouvent pas preneurs et les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leur allocation suspendue. Il ajoute que l'économie créera des emplois comme jamais. Et il poursuit que dans les secteurs, comme vous dites, comme le BTP, restauration, services, artisanat ou industrie, tous les entrepreneurs me disent peiner à recruter aujourd'hui. Au moment où 3 millions de nos compatriotes se trouvent encore au chômage, cette situation heurte le bon sens. Bon, voilà, ça c'était une déclaration d'Emmanuel Macron au journal télé de 20h de TF1 le 9 novembre 2021 pour illustrer un peu le discours gouvernemental dans la matière, bon, qui est un peu hors sol, pourrait-on dire. Du coup, on va faire la première pause musicale et puis après on va poser d'autres questions.
Your love for me is gone. Let me down easy, since you feel to stay is wrong. I know it's all over, but the last goodbye. Begging you, baby.
êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On poursuit notre entretien avec Jean-Marie Pillon et Luc Cigalo Santos, qui sont deux des co-auteurs de l'ouvrage Chômeur, vos papiers, qui est paru aux éditions Raison d'agir. Et ce qu'on voulait aussi s'intéresser, c'était la nouvelle langue politique depuis donc les années 2000, dont vous parlez dans votre ouvrage par rapport donc aux évolutions donc, du service public de l'emploi dans le sens d'un contrôle de plus en plus intensif des chômeurs. C'est que vous dites qu'il y avait trois grandes séquences qui jalonnaient la période. Il y avait tout d'abord une convention d'assurance chômage dans les années 2000. Il y a aussi une loi de cohésion sociale en 2005, enfin loi dite de cohésion sociale en 2005. Et enfin, la création de Pôle emploi à la fin de l'année 2008. Voilà, avec des créations de nouveaux structures, acronymes PARE, PAP, SMP, etc., etc., ORE, etc., etc. Bref, avec en 2009 la fusion à CEDIC et à NPE. Et avec tout ça, on pourrait se demander, derrière ces noms-là, ORE, PARE, PPAE, etc., etc., en quoi tous ces dispositifs qui sont quelque part issus un peu de la novlangue managériale, ce qu'on peut appeler le New Public Management dans le service public, en quoi ça incarne la version française actuelle du workfare, qui s'appelle l'activation en France, donc il y a l'activation, mais qui peut aussi s'appeler remobilisation, redynamisation des chômeurs et des RSA. En quoi ces dispositifs-là, ils vont incarner la version française du workfare? Le workfare aux États-Unis, c'est quand on passe de l'état social au welfare vers un état plutôt punitif, le workfare. Enfin, quand on passe de la main gauche de l'état à la main droite de l'état, si on pourrait dire.
Alors, bon, pour ce qui est effectivement de tous les anti-acronymes que vous avez cités, bon, je pense qu'il faut pas s'arrêter trop longuement dessus en considérant que ce serait la trace d'un changement historique. Bon, les acronymes, c'est un peu le lot commun des bureaucraties, hein, qu'elles soient privées ou publiques. Elles ont besoin de mots pour définir leurs procédures standards. Bon, c'est vrai que c'est pas très joli, c'est pas très poétique, mais c'est assez classique, hein, on pourrait dire presque un peu indépendamment des orientations idéologiques de ces organisations. En revanche, ce qui est vrai, et là vous avez raison, c'est que c'est important de savoir ce que signifient ces acronymes sans jamais prendre ces termes au pied de la lettre. Et donc, par exemple, vous citiez le PARE, le PAR, ou ça voulait dire plan d'aide au retour à l'emploi. Ça date de 2000, vous le disiez, hein, et c'est en fait, en gros, l'introduction en France de la contractualisation. C'est-à-dire qu'en gros, ça incarnait l'idée selon laquelle l'assurance chômage, c'est pas un dû, c'est pas parce que vous avez cotisé que vous avez pouvoir bénéficier d'une assurance. Non, quand on a cotisé, ben, en fait, ce qu'il faut, c'est de respecter un certain nombre d'engagements qui vont être couchés sur le papier. Donc ça, c'est le PARE de 2000, le PAR. Et puis, en 2005, a été mis en place le projet personnalisé d'accès à l'emploi, le PPAE. Et donc ça, bon, c'est là aussi un contrat, hein, ça va reprendre les grandes lignes du PAR. A priori, c'était assez protecteur si on y réfléchit, parce que ça permettait de formuler des exigences en termes de métier, en termes de salaire, en termes de périmètre géographique de recherche d'emploi. C'était qu'est-ce qu'on va vous proposer finalement. Ce qui est intéressant, c'est que dès 2008, donc 3 ans après la mise en place de ce PPAE, a été mise en place l'ORE dont vous parliez. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire offre raisonnable d'emploi. C'est né donc en 2008. Et ça, c'est calé sur le PPAE, c'est calé sur le contrat qui est signé lors de l'inscription entre le chômeur et Pôle emploi. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est? Ben, en gros, c'est une offre typique qu'un demandeur d'emploi ne peut pas refuser deux fois de suite, hein, sans être sanctionné. C'est-à-dire que si on traduit, hein, ça signifie que c'est une offre qu'il serait raisonnable de proposer à un chômeur en fonction de sa recherche, et en miroir, hein, c'est une offre qu'il serait déraisonnable de refuser. Et donc, en fait, on passe d'un contrat d'engagement où les deux parties devraient faire des efforts, etc. En fait, on passe d'un contrat d'engagement à une obligation ferme. C'est-à-dire que les exigences du demandeur d'emploi en matière de salaire, en matière de statut, en matière de métier, se retournent en fait contre lui et il ne peut plus les refuser.
Et alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que dans la même idée, c'est que de façon un peu ironique, en fait, enfin je ne sais pas si c'est ironique, mais en tout cas, il faut le souligner, c'est que l'offre raisonnable d'emploi n'a jamais vraiment été appliquée à la lettre, et même je dirais presque quasiment pas appliquée, puisque par exemple, on sait qu'il y a à peu près moins d'une centaine de cas de suspension pour non-respect de l'offre raisonnable d'emploi par an, alors qu'il y a à peu près 1000 fois plus de sanctions de façon générale. Donc les sanctions dues à ce non-respect de l'ORE sont quand même très très minimes, et je dirais qu'il y a au moins deux grandes raisons à ça. La première raison, hein, ça tient au fait qu'il ne vous aura pas échappé que Pôle emploi n'a pas la main sur l'ensemble du marché de l'emploi, et que les agents, en fait, disposent pas toujours d'offres d'emploi à proposer aux gens. Hein, il faut quand même le rappeler parce que ça semble parfois pas complètement évident dans les discours. Contrairement voilà, à un stéréotype tenace qui voudrait qu'il y aurait comme ça des milliards hein, d'offres d'emploi disponibles, hein, il y a quand même, pour rappeler qu'il y a quand même beaucoup plus de gens au chômage, hein, si on prend juste hein, les gens en catégorie A, hein, c'est 3 millions de personnes, alors que si on prend au même moment, donc deuxième trimestre 2022, les offres d'emploi dites vacantes, c'est 367 500 emplois. Donc c'est pas du tout la même proportion, 3 millions de chômeurs et 367 000 emplois vacants selon la DARES, hein, DARES, donc service statistique du ministère du Travail. Donc voilà, donc première raison, c'est que les agents n'ont pas du tout suffisamment d'offres à proposer aux gens. Et puis, la deuxième raison aussi pour laquelle l'ORE n'a été qu'appliqué de façon extrêmement partielle, hein, c'est qu'en fait, une partie des agents, notamment les agents qui sont issus de l'ex-ANPE et qui avaient quand même une philosophie de travail, une philosophie professionnelle de service public d'emploi, hein, eh bien, n'étaient pas d'accord justement avec cette nouvelle idée de contrainte qui s'incarne dans l'ORE et puis qui irrigue quand même l'ensemble des politiques contemporaines de lutte contre le chômage.
Et puis, pour terminer sur ce point et répondre à votre question, par exemple sur la question du workfare, ce qu'on peut constater ou ce que l'on peut interpréter de ce qu'on a pu voir en observant Pôle emploi, c'est que ce n'est pas encore du workfare, puisque contrairement au cas américain, au cas états-unien, les gens ne sont pas obligés de travailler pour bénéficier de leurs aides, comme ce fut le cas à une époque aux États-Unis. En revanche, et c'est déjà tout à fait important à souligner, ils sont obligés de prouver qu'ils cherchent du travail. Et c'est pas évident de prouver qu'on cherche du travail. Donc, ils sont pas obligés de travailler. Mais, avec la loi Plein Emploi hein, et la naissance de France Travail dans quelques mois, en fait, on y va tout droit, puisque, effectivement, comme ça a été claironné partout par l'exécutif, eh bien, les bénéficiaires du RSA devront s'acquitter de 2 jours de travail par semaine, 15 heures de travail non rémunérés, ou en tout cas qui ne seront rémunérés que par le RSA de ses bénéficiaires. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément par rapport à tous ces termes un peu barbares qu'on évoquait tout à l'heure, donc ce qu'on expliquait, c'est qu'effectivement, il y a la mise en place d'une contractualisation, et ce qui est intéressant, c'est que en fait, les contrats d'engagement réciproques entre les chômeurs et les autorités publiques, eh bien en fait, ce ne sont pas des contrats. Ce ne sont pas des contrats parce que, par exemple, Pôle emploi n'a jamais été condamné pour défaut de suivi, défaut d'accompagnement. Les engagements que prennent les institutions dans ces contrats ne sont pas des engagements, ils ne sont pas opposables. Et donc, même quand tous les éléments du dossier prouvent que la personne n'a jamais bénéficié de suivi, n'a jamais bénéficié d'aide de la part de l'institution, eh bien, les tribunaux classent sans suite. C'est donc une relation qui n'a pas grand-chose à voir avec le contrat, puisqu'il y a une seule des deux parties qui est contrainte.
Et ce qu'on avait oublié de préciser, peut-être, c'est là où il y a le plus de radiation par rapport au contrôle, c'est plutôt par rapport à ce qui s'appelle le suivi mensuel personnalisé, qui est le SMP, qui instaurait des convocations à des rendez-vous, et c'était plutôt l'absence à ce rendez-vous qui produisait le plus de radiation, beaucoup plus que les contrôles en soi. Mais pour poursuivre, hein, vous parlez aussi de ce que c'est que l'accompagnement. Donc, on a fait état en présentant le livre que ce qui est avec le politique de contrôle, il y a un verset qui s'appelle l'accompagnement des chômeurs et des RSA donc, par rapport à donc, cette politique dite d'activation. Et est-ce que vous pourrez nous dire de quoi cet accompagnement des chômeurs, il est le nom à travers cette politique d'activation des chômeurs ?
Alors oui, alors cette politique, effectivement, le recours au terme d'accompagnement est devenu aujourd'hui très, très courant dans les politiques d'emploi. Ça traduit, pour résumer à grands traits, hein, on va dire, une individualisation du suivi qui s'est opéré, disons, à partir des années 2000, mais sans vraiment qu'on donne à Pôle emploi, à l'époque, du coup, à la NPE, hein, les moyens de faire véritablement ce suivi et cet accompagnement. Hein, ça avait été présenté à l'époque par la NPE et l'exécutif gouvernemental comme une façon d'accompagner les gens au plus près de leurs besoins, de les suivre au plus près de leurs besoins, de les conseiller sur la meilleure façon de trouver un emploi et d'arriver à se remobiliser quand on perd espoir, parce que le chômage, ça peut effectivement aboutir à ce type d'attitude. Et c'était ça le discours qui était porté. Mais en fait, ce qu'on a observé, ce qu'on observe dans la réalité, ce que montre la plupart des enquêtes sociologiques qui ont été faites et qui sont nombreuses sur la NPE et Pôle emploi, c'est qu'en fait, individualisation du suivi, ça rime souvent avec deux choses. Alors, d'abord, premier point, ce qui est individualisé, c'est pas seulement l'accompagnement et le suivi, c'est aussi la conception qu'on a de la cause du chômage, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, le chômage est de plus en plus, à partir de ces années 2000, perçu, conceptualisé comme le résultat, la conséquence du comportement du demandeur d'emploi. Alors pas seulement, en tout cas à l'époque, parce qu'il est fainéant, mais aussi parce qu'il n'a pas la bonne formation, qu'il s'y prend mal pour chercher du travail, qu'il ne sait pas se vendre, qui est un terme qui revient souvent, qu'il ne sait pas se vendre auprès des entreprises, ou alors aussi que le chômeur est trop exigeant et n'accepterait pas de changer de secteur ou de région pour retrouver un emploi. Donc ça, c'est la première raison, c'est que individualisation rime souvent avec pas seulement personnalisation du suivi, mais aussi la façon qu'on a de voir la cause du chômage qui est de plus en plus individualisée elle aussi. Et le deuxième point, c'est que l'individualisation, ça rime souvent avec contrôle plus étroit des comportements, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, puisqu'on ce qu'on évalue, c'est le niveau d'activité de la recherche d'emploi. Donc on recherche un ensemble de faisceaux d'indices qui vont permettre de juger la bonne volonté du demandeur d'emploi vis-à-vis de cette recherche qu'il est supposé conduire sous peine de se voir sanctionner. Donc avec un ensemble de rappels à l'ordre institutionnel et puis de sanctions qui sont croissantes. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce qui est intéressant, mais peut-être triste aussi, c'est que les pouvoirs publics n'ont pas vraiment donné les moyens à Pôle emploi de ses ambitions du point de vue de ce suivi, parce que ce qu'il faut dire, comme on le disait aussi tout à l'heure sur l'offre raisonnable d'emploi, c'est que ce suivi mensuel personnalisé, ce SMP, qui est mis en place par la loi Borloo en 2005, et qui suppose théoriquement que tous les chômeurs rencontrent leur conseiller référent tous les mois à partir du quatrième mois d'inscription, en fait, ce SMP n'a jamais réellement pu être appliqué concrètement, faute de moyens suffisants, faute d'arriver à mettre suffisamment de conseillers Pôle emploi, et que du coup, juste pour terminer là-dessus, que du coup, dans le domaine de ces politiques de lutte contre le chômage, il y a quand même, et dans le cas d'autres politiques publiques aussi, mais ici a fortiori, il y a un décalage quand même assez important, assez net, entre ce que certains sociologues comme Alexis Spire ou Vincent Dubois, qui est l'un des co-auteurs de l'ouvrage, appellent le décalage entre la scène et les coulisses, c'est-à-dire entre d'un côté les mots d'ordre réformateurs, personnalisation, individualisation, etc., et puis leur mise en œuvre quotidienne, loin des regards, dans le quotidien des agents, si je puis dire, en coulisses, où en fait on se rend compte que les agents n'ont pas les moyens du tout d'accomplir ce suivi.
Voilà, et si on se demande qu'est-ce qui va se passer du coup sur le front, au quotidien des agences, eh bien en fait ce qu'on observe, c'est que finalement, comme dans l'industrie, la volonté de proposer une forme de personnalisation de masse ne va pas s'en poser de problème. C'est-à-dire que ça va conduire à standardiser les outils de production, tels que les logiciels des conseillers ou le site internet de Pôle emploi. Et puis ça va conduire à quoi? Ça va conduire à segmenter les publics en fonction de quelques caractéristiques abstraites. Et donc, à ce public, on va lui proposer des services génériques en fonction de critères relativement abstraits. Alors, c'est quoi ces critères abstraits? Le plus couramment utilisé, ça va être celui de distance à l'emploi. Chacun serait plus ou moins près de l'emploi. Et c'est une description relativement pauvre de ce qu'est un chômeur ou une chômeuse. Et puis, on trouve aussi la notion de frein périphérique qui va permettre de justifier la mise en attente de certains dossiers au prétexte que la personne est malade, qu'elle n'a pas de logement, qu'elle est victime d'addiction, etc. Donc, on va proposer des services génériques comme ça. Alors,
qu'il faut dire, c'est que heureusement, les conseillers, même si on en a conscience, hein, les conseillers ont une mauvaise image auprès de leur public, mais il faut essayer de sortir un peu de cette image de ces préjugés. Je crois vraiment qu'il faut féliciter les conseillers Pôle emploi qui ont eu le souci tout au long de ces années de chercher, même s'il n'y avait pas toujours, à conserver, essayer de conserver une adaptation à chacun de leurs demandeurs et leurs demandeuses d'emploi. Et finalement, malheureusement, hein, ce qui s'est passé, ce qui se passe, c'est que le nombre de gens à qui il faudrait s'adapter est bien trop important par rapport au nombre de conseillers et de conseillères qui travaillent à Pôle emploi.
Eh bien, on va faire une seconde pause musicale. Vous êtes sur Radio Escapade, c'est l'émission La Tête dans l'étagère. On vient d'écouter Vicky Anderson et le titre du morceau c'est You Welcome Stop on By. Eh bien on va poursuivre et peut-être même finir notre entretien avec Jean-Marie Pillon et Luc Sigalo-Santos par rapport au livre Chômeur vos papiers. Oui, vous avez commencé à évoquer donc le cas des agents du Pôle emploi là, donc qui s'occupe donc du CRE, du contrôle. Et aussi ce qu'on pourrait un peu demander, hein, c'est comment ça se déroulait, ça s'organisait un peu les interactions un peu entre les contrôleurs et donc leur public, leurs chômeurs, et qu'est-ce que cette relation a produisait tant sur ceux qui font des contrôles que sur les contrôlés. Par exemple, quelle réticence il peut y avoir, quelle acceptation il peut y avoir, comment il le justifie, etc., 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 ou comment il le combatte, etc., etc.
Alors, il n'y a pas d'interaction à proprement parler, au sens où les contrôleurs ne rencontrent jamais physiquement les chômeurs qui font l'objet d'un contrôle. Ouais. Ou alors de façon excessivement exceptionnelle, certains chefs d'équipe contrôle, dans certains cas très très rares, peuvent recevoir les gens à leur demande, mais c'est vraiment rarissime. Donc la très grande majorité hein, de contrôleurs ne voient jamais les gens qu'ils contrôlent. Alors concrètement, hein, les contrôleurs, ils travaillent depuis des plateformes à distance qui sont organisées par grandes régions, en équipe de 10 à 20 personnes selon la taille de la région. Et donc ces contrôleurs, ils sont sous la responsabilité d'un chef d'équipe de contrôle qui est lui-même rattaché au directeur des plateformes, qui lui-même rencontre au directeur régional de Pôle emploi. Voilà en gros pour l'organigramme. Alors désolé, c'est pas très radiophonique de décrire un organigramme administratif, mais c'est pour que vous ayez un peu la chaîne
de commandement, et plus concrètement, alors depuis 2021, depuis l'annonce hein, donc du président de la République et de la Première ministre hein, de renforcement hein, du nombre de contrôles à réaliser, les échanges entre contrôleurs et contrôlés, ils ont lieu soit par mail, soit par téléphone, soit les deux. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'un dossier contrôle est ouvert hein, par le contrôleur, donc aujourd'hui, hein, l'objectif qui est fixé pour chaque contrôleur, c'est à peu près 8 dossiers à instruire par jour. C'est ça à peu près la cadence. Donc, une fois qu'un dossier contrôle est ouvert, le contrôleur, il va étudier le dossier, il va chercher des preuves, et là, je cite, hein, d'un effort répété de démarches réelles et sérieuses de recherche d'emploi. C'est comme ça que c'est labellisé dans le Code du travail et puis dans la réglementation aussi de Pôle emploi. Et si à la lecture du dossier du demandeur d'emploi, eh bien, il y a des éléments qui permettent de douter de cette démarche réelle et sérieuse, eh bien, il va prendre contact avec le demandeur d'emploi pardon, et lui adresser une série de questions. Alors, par exemple, combien de candidatures il a fait, auprès de quels employeurs, est-ce que son CV est à jour sur son espace personnel, est-ce qu'il a participé à des salons professionnels, etc. etc. Et l'objectif ici, c'est de chercher à vérifier hein, que ces demandeurs d'emploi contrôlés cherchent bien activement un emploi. Alors, en gros, aujourd'hui, le demandeur d'emploi, il bénéficie d'à peu près d'une grosse semaine, 8 jours, hein, pour répondre à ses demandes. Alors, non seulement pour répondre aux questions qui lui sont posées, mais aussi pour apporter des preuves hein, de sa recherche d'emploi, des preuves de mail, des preuves de lettres qu'il aurait envoyées aux employeurs, etc. etc. Donc, c'est pas juste du déclaratif, c'est pour apporter des éléments à l'appui. Et donc, en plus de répondre à cette série de questions qui peut parfois prendre la forme d'un questionnaire, la personne qui est contrôlée, elle peut être convoquée à un entretien téléphonique pour bien préciser les éléments qu'elle a envoyés. Alors là, si la réponse, globalement, convainc le contrôleur hein, que ce chômeur est bien à la recherche d'un emploi, qu'il réalise des actes positifs et répétés de recherche d'emploi, eh bien, le contrôleur peut décider de fermer hein, le dossier, de clôturer le contrôle. Donc là, la procédure s'arrête. Et du coup, ça veut dire que la recherche d'emploi, elle est jugée active par le contrôleur. Alors, si ce n'est pas le cas, le contrôleur peut décider en gros soit de ce qu'on appelle en interne une décision de remobilisation à l'égard de ce chômeur contrôlé, c'est-à-dire qu'il va prescrire que le suivi de ce chômeur soit intensifié, donc il va prescrire au conseiller référent de ce chômeur eh bien, des rendez-vous plus fréquents hein, pour remettre ce chômeur sur le chemin de l'emploi, ou alors il peut lui prescrire aussi, autre point, des formations, par exemple des formations CV, hein, pour n'en citer qu'une qui est assez connue. Alors là, les agents du contrôle sont assez précautionneux puisqu'ils essayent plutôt de suggérer aux conseillers référents de prescrire ça aux demandeurs d'emploi plutôt qu'à les prescrire eux-mêmes parce qu'ils évitent de prendre trop la main sur les dossiers de leurs collègues. Donc il y a des échanges réguliers entre les équipes de contrôle sur les plateformes et puis les conseillers des agences locales pourraient peut-être froisser aussi les conseillers qui ont en portefeuille, comme on dit à Pôle emploi, ces demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est la première possibilité. Hein, si la recherche est jugée insuffisamment active, on peut chercher à remobiliser. Ou alors, hein, si véritablement le chômeur contrôlé n'apporte pas les preuves qui sont attendues de lui, eh bien, le contrôleur peut décider d'une suspension de l'allocation. Alors, d'abord, si c'est une première fois, on va dire pour une durée d'un mois, et puis si c'est une récidive, eh bien, ça peut être de plusieurs mois. Ce qui veut dire radiation de la liste des demandeurs d'emploi, mais aussi suspension de l'allocation si bien sûr ce chômeur perçoit une indemnité. Alors, juste pour préciser un petit peu, avant 2021, l'usage c'était que les contrôleurs se sentonnaient au questionnaire avant de convoquer le demandeur d'emploi, alors que maintenant les choses se font un peu de façon mélangée, précisément parce que depuis qu'Emmanuel Macron a fait cette annonce en fanfare en novembre 2021 en disant qu'il va y avoir 25% de plus de contrôle, eh bien ce qui s'est passé, c'est que pour tenir cet objectif de 25% de contrôle en plus, sachant qu'on n'a pas rajouté des contrôleurs, hein, eh bien il a fallu réduire la durée hein, durant lequel le contrôle se déroule, ce qui fait que, pour le dire simplement, les demandeurs d'emploi contrôlés ont de moins en moins de temps hein, pour apporter des preuves de leur recherche d'emploi. Donc le délai de traitement des contrôles s'est raccourci, donc la cadence s'est quand même augmentée. Alors, pour compléter un peu là-dessus, les contrôleurs disent souvent qu'au final, il y a très peu de radiations hein, qui sont générées par les contrôles. Hein. C'est à peu près en tendance hein, de Environ 15% des contrôles aboutissent à une suspension de l'allocation, et ça peut être interprété de deux façons. Hein, la première explication, qui est souvent d'ailleurs celle qui est donnée par l'institution et par les contrôleurs, c'est que les contrôleurs ils sont pas là pour punir les gens, mais qui sont là pour les remobiliser, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Hein. Donc, en fait, d'une certaine façon, le fait qu'il y ait peu de sanctions, ça attesterait de la mansuétude, de l'empathie, disons, de ces contrôleurs et de Pôle emploi pour les chômeurs. Alors ça, c'est la première explication. Bon, mais la deuxième explication qu'on peut donner, c'est aussi que les contrôleurs constatent que la grande majorité des chômeurs qu'ils contrôlent, eh bien, cherchent de fait un emploi, et ça peut expliquer aussi ce taux très limité de sanctions. Hein, et donc voilà, donc par conséquent, c'est aussi ils constatent que finalement les gens cherchent du boulot et que ça implique que les contrôles n'aboutissent que relativement rarement à des sanctions. Et que par ailleurs, hein, quand les gens ne remplissent pas cette exigence de recherche active, hein, ça ne tient pas toujours d'ailleurs à un manque de volonté comme on l'entend souvent, mais aussi bien plutôt à des contraintes personnelles ou familiales hein, qu'on connaît bien, c'est-à-dire typiquement un problème de formation, un problème de logement, de transport, de santé, etc. etc. Alors, peut-être pour répondre aussi sur la question des effets, alors c'est pas simple à mesurer parce qu'en fait ça dépend de quel point de vue on se place. Alors, Pôle emploi et ses contrôleurs, ils mettent souvent en avant le fait que l'interaction avec les contrôlés se passe généralement bien. Parce que les gens seraient, donc ça c'est qu'en sort des discours dans des entretiens, notamment avec les contrôleurs, hein, il y a l'idée que les gens seraient contents qu'on s'intéresse enfin à eux. Il y a quand même depuis les années 2000 un glissement avec le suivi personnalisé qui montre quand même que globalement quand même beaucoup de gens à Pôle emploi sont quand même laissés dans la nature et qu'effectivement ils sont sans suivi parce que encore une fois les agents n'ont pas les moyens hein, de les accompagner et de les suivre de façon régulière. Voilà. Donc ça c'est la première explication qu'il faut prendre au sérieux. Hein. Il ne faut pas la jeter en disant c'est de la rhétorique de l'institution, c'est faux, etc. Mais en l'espèce, c'est quand même difficile de vérifier l'idée selon laquelle tout se passe très bien dans les relations contrôlés-contrôleurs, précisément parce qu'à ce jour, on n'a pas encore pu observer de travail de contrôle in situ, en situation, parce qu'on n'a pas encore eu les autorisations. Alors, on ne désespère pas d'y arriver un jour, mais bon, on n'y est pas encore, et je ne sais pas si la publication du livre va beaucoup aider, mais bon, bref. Mais on peut aussi, c'est ce que je disais, penser que c'est cette idée que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, c'est un peu une rhétorique professionnelle, parce que en fait, quand même, quand on interroge les associations de défense des chômeurs et puis les syndicats aussi, on se rend compte que l'effet qui est principalement mis en avant, c'est quand même l'idée que le climat de suspicion qui pèse sur les chômeurs, eh bien, c'est quand même très nettement renforcé, et que ça met quand même. Alors, on cite des cas hein, dans le livre, dans le dernier chapitre du livre, hein, d'un certain nombre de chômeurs hein, qui sont tétanisés en fait face à Pôle emploi, parfois tenus d'accepter des boulots qu'ils n'ont pas du tout envie de faire, qui ne sont pas qualifiés pour faire, etc., etc. Donc, il y a quand même une véritable crainte hein, de la part d'un certain nombre de gens vis-à-vis de Pôle emploi.
Et pour terminer, tout à l'heure, vous citiez les propos du président de la République en novembre 2021. Et en fait, ce qu'on a pu constater, et ce qui nous revient, même il y a des gens qui nous contactent pour nous prévenir, en fait, on a de nombreux témoignages qui nous reviennent et qui nous expliquent que, en fait, depuis novembre 2021, l'ambiance a changé du tout au tout, c'est-à-dire que jusqu'en novembre 2021, les acteurs du contrôle eux-mêmes étaient tout à fait, comment on pourrait dire, dans l'adhérence à l'idée selon laquelle le contrôle était une forme de remobilisation, et comme le disait Luc, on peut leur faire en quelque sorte un peu confiance là-dessus. Ce qui se passe depuis novembre 2021, c'est que l'ambiance a changé du tout au tout, et il est quasi impossible de conserver cet argument pour décrire ce qu'il se passe dans les relations de contrôle. Les contrôleuses, les contrôleurs elles-mêmes, et puis toutes les personnes qui sont en lien avec ces services de contrôle nous disent que la cadence a très très largement augmenté, donc Luc le disait, hein, il y a 8 dossiers à ouvrir chaque jour, et en fait, les contrôleurs ne peuvent plus se permettre la moindre mansuétude vis-à-vis de des dossiers qu'ils traitent, vis-à-vis des personnes avec qui ils s'entretiennent. Ils ont 500 000 contrôles à réaliser par an depuis 2022, et donc en fait, ils sont contraints, c'est ce qu'on nous a expliqué, hein, ils sont contraints de prononcer des sanctions dans des cas qui ne leur semblent pas relever d'un manque d'effort, d'un manque de mobilisation des demandeurs d'emploi. Et donc ça, c'est relativement inquiétant parce que, depuis cette date de novembre 2021, il semblerait que le contrôle ait quelque peu changé de nature.
Oui, il fallait commencer à changer de nature, et là, on voit vraiment qu'il est, qu'il, qu'il, qu'il est beaucoup plus du contrôle que de l'accompagnement tel qu'il est présenté. Oui, on avait obligé de dire aussi que il y avait une chose, c'est que vous avez eu du mal à avoir des données de Pôle emploi par rapport aux résultats du contrôle sur la recherche d'emploi. Est-ce que c'était efficace ou pas? Et vous dites que ben que c'est pas facile, ils communiquent pas beaucoup. Alors est-ce que c'est parce que eux-mêmes dans leurs évaluations en interne ils se rendent compte que c'est pas efficace ou voilà, mais en tout cas il n'y avait pas de voilà, c'était très très compliqué d'avoir des données, et même le rapport de préfiguration de France Travail, la loi Pôle Emploi, il pointait l'absence de ces données. Donc oui, c'est vrai que alors c'est avec un discours qui dit que quasi autoprophétique que ça marche, mais bon, on n'a aucune preuve que ces contrôles ça marche par rapport à en fait, que les chômeurs trouvent du travail, et bon, voilà. Et c'est quand même une question à soulever, quoi.
C'est quelque chose qui est très étrange. C'est-à-dire que sur les questions de travail et d'emploi, il y a des chiffres dans tous les sens, il y a des publications quasi mensuelles de toute forme de données qui concernent le marché du travail. En revanche, en ce qui concerne le contrôle de la recherche d'emploi, il est impossible de disposer de données qui soient historiques, qui soient comparables et qui soient pertinentes en ce qui concerne à la fois qui est contrôlé, pourquoi et quels sont les effets de ce contrôle. Et c'est tout à fait surprenant parce que ce n'est pas le cas à l'étranger. C'est-à-dire que c'est une spécificité française de voir que ces données ne sont pas publiques. Et effectivement, l'hypothèse que vous avancez, qui est aussi la nôtre, c'est que en fait, on a récupéré des données en passant par l'interne, en passant par des agents qui voulaient bien nous transmettre ce qu'ils avaient sous la main. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé de données qui prouvent que le contrôle permettent de retourner plus vite à l'emploi. On n'a pas de preuve de cela. Donc c'est sans doute pour cela que ces données ne sont pas publiques et ne font pas l'objet d'une publication et d'une publicité aussi importante que celle des chiffres du chômage étudiés chaque mois ou chaque trimestre à grand renfort d'analyse dans les médias.
Et c'est pour ça justement qu'on recourt dans le livre à l'idée effectivement des politiques de redynamisation en tant que mythe, hein, c'est-à-dire l'idée que c'est une idée en fait qui est non démontrée, hein, mais à laquelle effectivement bah, l'institution en tout cas et une partie des agents accordent du crédit et qui s'approprient. Hein, mais effectivement, pour répéter ce qu'a dit Jean-Marie, pour l'instant, on n'a pas d'études, en tout cas on n'a pas connaissance d'études sérieuses qui démontreraient que le fait de contrôler les chômeurs, donc de faire peser sur eux la menace d'une sanction, faciliterait leur retour à l'emploi. Ça, pour l'instant, ça n'existe pas. Et les quelques éléments qu'a pu publier Pôle emploi pour prendre la mesure justement des dispositifs expérimentaux de contrôle à la fin des années 2010, hein, montrent qu'en fait, les effets du contrôle sur le retour à l'emploi sont extrêmement résiduels, en fait, limités, et que donc, pas du tout dire que ça a un effet, encore moins un effet positif sur le retour à l'emploi, mais visiblement, au regard des débats, si on écoute les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat sur la loi plein emploi et l'introduction avec ce beau terme, hein, la suspension remobilisation, qui dit tout presque en elle-même, ben, force est de croire qu'en tout cas, une partie de l'échiquier politique, hein, la droite de l'échiquier politique, croit véritablement que le fait de menacer les gens de leur retirer leurs indemnités chômage ou leur RSA, eh bien, facilitera et favorisera le retour à l'emploi, ce qui, encore une fois, on le dit dans le livre, pour nous, n'est pas du tout sûr, loin de là.
Et pour aller sur des terres un peu plus philosophiques, en fait, derrière ce mythe de la remobilisation, des chômeurs qui ne chercheraient pas de travail, en fait, derrière ce mythe, il y a une opposition qui est assez historique, hein, depuis plusieurs siècles, entre d'un côté une certaine économie standard et puis de l'autre côté des sciences plus sociales, plus historiques. Et en fait, pour les sciences économiques, c'est assez clair, hein, tout le monde est un feignant et chacun serait né comme ça. Et en fait, il n'y a que le salaire ou la contrainte qui pourrait conduire les gens à travailler. Alors que, bon, ben voilà, les économistes qui parlent de désutilité du travail, hein, c'est-à-dire qu'on paye les gens pour ne pas se tourner les pouces chez eux. Et bon, ben, du côté des sciences sociales, des sciences historiques, ce qu'on a observé, c'est que c'est pas seulement l'argent. Pas pour dire que l'argent n'est pas important, mais c'est pas seulement l'argent ni la contrainte qui pousse les gens à travailler. Si les gens se lèvent le matin, eh ben c'est parce qu'on en tire un peu de prestige, un peu d'honneur, un peu de reconnaissance.
et que ben pour le pire et pour le meilleur, hein, c'est pas toujours défendable, mais pour le pire et pour le meilleur, eh bien les gens se lèvent le matin pour obtenir une place dans la société, et c'est pas uniquement le salaire et la contrainte qui les poussent à se lever le matin.
Et ben pour finir par rapport, donc vous parlez donc de cette loi plein emploi, qui est donc dans le sens de toutes les politiques hein, depuis quelques années, et surtout depuis les septennats d'Emmanuel Macron, on parlait des Grignons, on en a déjà parlé dans plusieurs émissions. Qu'est-ce que résistance serait possible et effective hein, face à toutes ces attaques aux droits des chômeurs, mais aussi des salariés, qui s'aggravent de plus en plus, donc par rapport aussi à cette loi plein emploi et cette proposition de 15 à 20 heures d'activité obligatoire pour les demandeurs allocateurs du RSA, dans le sens où, comme vous l'avez aussi expliqué dans le petit historique de votre livre, que originellement le service de service public de l'emploi par rapport au chômage, c'était plutôt, il y avait un côté indemnisation et il y avait un côté placement des chômeurs. Et là, le côté indemnisation, il est beaucoup moins fait, voire même, ils essayent de rogner dessus, et c'est beaucoup plus dans le côté placement des chômeurs, harcèlement des chômeurs, que ça se passe. Donc, quelle résistance il serait possible de la part donc des contrôlés, mais aussi, quelquefois, quelques contrôleurs eux-mêmes qui seraient contre et voilà comment ça. Vous faites état de certaines choses dans votre ouvrage. Ici même dans la région, il y a une assemblée des précaires sud-cévennes qui se réunit à un lieu à Pondéro qui s'appelle l'Étuve le premier mardi de chaque mois, et qui vont faire des permanences au Vigan, à la petite base Place de la Mairie, à partir du lundi 20 novembre de 11h à 14h, et à Ganges, au local La Bougeotte, Place Fabre d'Olivet, le vendredi 24 novembre de 10h à 13h, et c'est donc dans le cadre de la résistance à cette loi plein emploi, et donc pour travailleurs et travailleuses précaires, allocateurs de RSA et autres, d'être solidaires et se battre contre cette réforme et de lutter contre les nombreuses attaques qui les mettent toujours plus en difficulté, qu'il s'agisse des conditions de travail ou de survie, augmentation des coûts, durcissement des conditions d'attribution des aides, accession au logement. Voilà, il y a des gens qui s'organisent, auto-organisés, mais je sais qu'il y avait aussi des associations de chômeurs, voire même des gens au sein même des services de contrôleurs qui essayaient un peu de... Voilà, je ne sais pas si vous avez des échos de ça.
Alors oui, c'est effectivement... Alors on esquisse dans l'épilogue du livre des formes de résistance qui existent, alors qu'elles soient individuelles ou collectives vis-à-vis de ce tournant coercitif hein, de ces politiques, et que la loi, la mal nommée loi pour le plein emploi, eh bien, vient renforcer. Alors, bon, on va essayer d'avoir une tonalité qui ne soit pas trop défaitiste ou négative, mais ce qu'il faut dire déjà, c'est que les résistances, quand même, malgré tout, elles ne sont pas simples aujourd'hui, parce que les chômeurs sont loin d'être un groupe homogène, hein, et que c'est compliqué de les mobiliser. Ça tient à plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est qu'être au chômage, déjà, ça ne veut pas dire forcément qu'on a du temps, hein, beaucoup de temps pour se mobiliser. Hein. Il y a des gens déjà qui travaillent à temps partiel, d'autres qui travaillent de façon pas toujours déclarée ou même de façon parfois pas toujours rémunérée. Et par ailleurs, hein, on le sait par un certain nombre de travaux de sociologie, je pense aux travaux notamment d'Didier Desmazières, hein, l'idée c'est que ben, être chômeur, eh bien, c'est aussi un travail. Hein, les démarches de recherche d'emploi, ça prend beaucoup de temps et d'énergie, et que du coup, on n'a pas, contrairement à une idée un peu reçue ou un stéréotype, hein, les gens n'ont pas tout le temps qu'ils veulent devant eux à se tourner les pouces. La deuxième raison qui rend ces résistances du point de vue des chômeurs pas simple, c'est que l'identité de chômeur, même l'identité militante de chômeur, elle est en lien avec ce que vous disiez là, elle est pas très valorisée, elle est pas très valorisante. Hein. Il y a un certain nombre de travaux en sociologie et en sciences politiques qui le montrent bien. Et c'est d'ailleurs pour ça que les intermittents se définissent pour la plupart en référence à un métier ou à un secteur, hein, le spectacle, plutôt que par le fait d'être des chômeurs à temps partiel, puisque c'est ça le principe de l'intermittence. Et d'ailleurs, on sait qu'en fait, le chômage produit surtout de l'isolement chez la plupart des gens avant de produire de la solidarité.
Et puis, le fait de faire valoir ses droits peut avoir tendance à isoler encore plus et surtout à faire traîner dans le temps le fait de pouvoir bénéficier de ses droits, ce qui ne participe pas forcément à collectiviser la lutte. Et puis, ce qu'il faut dire, effectivement, c'est aussi que du côté des agents, mais peut-être, Luc, des côtés des résistances des agents de Pôle emploi.
Alors, du côté de Pôle emploi, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, les agents, une partie des agents, en tout cas, tentent de résister, puisque quand même, il y a un certain nombre d'agents, alors c'est difficile de quantifier exactement, mais un certain nombre d'agents sont quand même en désaccord avec ce renforcement de la mission coercitive de Pôle emploi. D'ailleurs, très récemment, plusieurs syndicats ont appelé à la grève pour protester à la fois, enfin, contre la loi pour le plein emploi, donc qui renforce les contraintes sur les allocataires du RSA, mais aussi qui remplace Pôle emploi par France Travail. Bon, cette grève a été quand même peu suivie, il faut quand même le préciser. Alors, ces résistances, il y a des résistances en interne qui existent et qui continueront d'exister, mais bon, qui se jouent plutôt, on va dire, dans les interstices de la mise en œuvre. C'est-à-dire que les agents vont chercher à déjouer certaines sanctions, à indiquer aux chômeurs, aux allocataires du RSA, quoi faire pour éviter la sanction. Mais la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quand tout ça va, enfin, jusqu'à quand ces interstices de la mise en œuvre vont pouvoir être investis par les agents, jusqu'à quand ils vont pouvoir un peu déjouer les mots d'ordre réformateurs incitant les enjoignant de faire preuve de plus de coercition. Puisque, bon, alors pour l'instant, les humains, on va dire, ont encore la main sur le contrôle, c'est géré par des gens. Mais par exemple, si Pôle emploi en vient à recourir alors ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire ce qui se passe notamment aujourd'hui à la CAF, et comme montre Vincent Dubois dans son livre, ce qui se passe dans d'autres pays aussi comme au Danemark, il y a l'idée qu'en fait, on va automatiser les contrôles, notamment en calculant via des logiciels des scores de risque pour certains types d'allocataires, et bien à partir du moment où on va automatiser ce type de procédure, on peut se dire que les choses risquent de s'aggraver encore davantage, précisément puisque les agents n'auront plus trop la main pour essayer d'adoucir, de féminiser et de rattraper ce qu'ils essaient de faire régulièrement au quotidien.
Et puis on pourrait trouver un autre foyer de résistance, mais qui pour l'instant n'a pas beaucoup bougé, c'est celui des syndicats de salariés. Alors ces derniers, il ne faut pas les blâmer, c'est simplement ils concèdent avoir abandonné ce combat faute de combattants. Parce que comme on l'a vu dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites, en fait, les syndicats, ils ne peuvent pas décréter la mobilisation. Ils doivent la construire malgré leurs dissensions et tout ça sans certitude que ça fonctionne. Et même si ça fonctionne, on l'a vu avec les retraites également, les chances de victoire apparaissent de plus en plus maigres. Et donc, dans le cas du chômage, en fait, ils en sont venus à l'idée, et c'est difficile de leur donner tort, que les salariés en général, comme leurs militants en particulier, n'y voient absolument pas une cause qui mérite qu'on se mobilise. Alors même que, comme on le souligne dans le bouquin, et dans la conclusion notamment, en fait, la pression qui est mise sur les chômeurs, elle a un effet, qu'il soit pervers ou qu'il soit poursuivi, il y a un effet, et qui est bien pratique pour les employeurs, et qui est assez néfaste pour les salariés, c'est la baisse généralisée des salaires. Parce que ça limite les possibilités de négociation salariale. Alors, si on veut terminer sur une note un peu plus positive et un peu plus optimiste, on pourrait dire que, si on regarde un peu comment fonctionnent les mobilisations sociales sur la période contemporaine, en fait, on pourrait aussi prendre le schéma à l'envers pour essayer d'imaginer où est-ce qu'il faudrait taper. Le premier, c'est que si les chômeurs, le premier lieu où il faudrait taper, c'est que si les chômeurs sont frappés chaque année de une ou deux réformes qui vont compliquer leur existence, c'est parce qu'il y a un pouvoir, et ce pouvoir, il a été élu, et il déroule un programme qui est ultra cohérent et qui va utiliser l'argent public au service des profits des entreprises privées. Dont acte, remplaçons ce pouvoir par un autre programme tout aussi cohérent et qui serait lui au service des salariés. Et parenthèse, mais on peut aussi attendre d'être au pouvoir pour se demander quelle position on prendra sur le Moyen-Orient. Deuxième foyer de résistance, qu'est-ce qui ralentit ce pouvoir? Eh bien, ce qui lui complique le déroulement de son agenda, c'est la mobilisation des salariés. On arrête le travail pour instituer un rapport de force. Et là, on peut le répéter, tout le monde est touché quand on rogne le droit des chômeurs. D'autant qu'on a une image d'Épinal qui est très forte, et on voulait aussi revenir là-dessus aujourd'hui, c'est qu'il y aurait cette image selon laquelle il y aurait 6 millions de chômeurs d'un côté et 27 millions de salariés de l'autre. Mais en fait, c'est une illusion. La plupart des chômeurs travaillaient le mois précédent. Et tout le monde connaît des périodes de chômage au cours de sa vie. Donc même si c'est peu valorisant, comme le disait Luc, même si c'est pas très optimiste pour quelqu'un, il faut s'en convaincre. Aussi sûr que nous serons retraités, nous serons chômeurs et chômeuses, et ça mérite de se mobiliser. Alors oui, les mobilisations, elles perdent presque à chaque fois, mais elles ralentissent l'exécutif et elles poussent à se montrer nues. c'est-à-dire sans argument d'intérêt général pour défendre ses projets. Et puis, deux derniers foyers, hein, qui sont, eux, plutôt à portée de main et peut-être un peu plus vivaces, c'est qu'est-ce qui détermine l'application de ces réformes ? C'est la docilité des directions des services publics. Et là, on prêche peut-être dans le désert, mais combien de temps encore les cadres des services publics, ceux qui négocient le budget, ceux qui élaborent les procédures, vont se satisfaire d'être félicités pour saborder leur outil de travail ? Et puis, en ce qui concerne les conseillers, on le dit dans le livre et on l'a encore répété ce matin, c'est grâce aux agents de Pôle emploi, c'est grâce aux conseillers et aux conseillères que les chômeurs français ont été relativement protégés ces 20 dernières années, pardon, par rapport à leurs homologues étrangers. En Angleterre, en Belgique, en Allemagne, les chômeurs se sont fait tondre ces 20 dernières années. En France, il y a eu une relative protection parce que les agents ne voulaient pas mettre la pression sur les chômeurs, parce qu'ils ont joué avec le système. Et donc, si jamais aujourd'hui, il y a du contrôle des chômeurs qui se fait sur des plateformes, c'est parce que le pouvoir est parvenu à détourner, contourner cette résistance des agents. Et donc ça, c'est important à le dire haut et fort. Tactiquement, le pouvoir est du côté des conseillers. Ils peuvent, en quelque sorte, et c'est un peu lâche de notre part de leur refiler la patate chaude, mais ils ont les moyens de détourner le système actuel comme ils freinaient le système précédent. Donc ce qui peut paraître optimiste derrière, hein, ce portrait un peu sombre, c'est que pour résister, pour gagner, les arguments, les modes d'action, les stratégies, en fait, on les connaît et elles marchent. Simplement, ce qui manque, c'est des gens qui acceptent d'y participer finalement.
Eh bien, sur ces bonnes paroles pleines d'espoir, on vous remercie pour cet entretien et vous souhaite bonne continuation.
Un grand merci à vous pour l'invitation et bon vent à Radio Escapade.
Ouais, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.
La tête dans l'étagère, une émission de critique sociale diffusée sur Radio Escapade les 1er et 3e mardis du mois de 17h à 18h. Rediffusion le vendredi à 9h30.